Elles sont des femmes, sénégalaises ou d'origine sénégalaise, aux profils divers et provenant de diverses classes sociales. Pendant une heure, et sur un ton intimiste, nous interrogerons avec elles leur place, de celle qu'on leur a assignée à ce qu'elles en ont fait, vie, parcours, conception du monde et des rapports sociaux.
Je suis Zoubida Fall et vous êtes dans le podcast Conversation féminine. Sociologue, militante politique, ancienne journaliste, parmi les pionnières du féminisme au Sénégal, membre fondatrice du mouvement Yeou Yewi, première organisation féministe du Sénégal, elle crée en 1974 la revue africaine Famille et Développement, dont elle est la rédactrice en chef jusqu'en 1978. Elle fonde, en 1977, l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement. En 1981, elle est membre du secrétariat d'Andou Diouf, mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle. En 1984, elle lance Yeou Yewi. Elle est en 1986 membre fondateur du Forum des organisations africaines de volontariat. En juillet 1987, paraît au Sénégal le premier numéro de la revue FIPU, Se rebeller en Wolof, journal du mouvement Yeou Yewi. Entre 1990 et 1992, elle est conseillère spéciale auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. De 1992 à 1994, elle est directrice pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la Population. De 1994 à 1997, elle est directrice de la division Afrique du FNUAP. À partir de 2004, elle est membre du comité des personnes éminentes du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Elle a par ailleurs servi comme membre de plusieurs commissions indépendantes telles que la Commission du Sud, la Commission de gouvernance globale présidée par Sridath Rampal et Ingvar Carlsson, la Commission de l'UNESCO sur l'éducation au XXIe siècle présidée par Jacques Delors. Elle a été membre des comités de plusieurs institutions nationales et internationales et membre des comités consultatifs d'institutions telles que l'OIT et la Banque mondiale. Elle a collaboré avec le président Jimmy Carter au réseau des négociations internationales et au forum de leadership africain avec le président Obasanjo. J'avoue, en déroulant son parcours, être impressionnée. Aucune Sénégalaise, j'ose l'espérer, de toute génération confondue, n'ignore son nom. Je l'ai toujours prononcé avec beaucoup de déférence et de respect, toujours au front, encore aujourd'hui, celle qui me dit lors de notre entretien téléphonique pour préparer cet épisode qu'il était important pour elle de continuer à garder sa fureur intacte. Marie-Angélique Savané, bienvenue dans Conversation féminine.
Merci. Quelle introduction!
Merci beaucoup.
Alors, j'ajouterai quelque chose, ça a occupé quand même plus de 10 ans de ma vie.
Oui.
J'ai été responsable d'équipe de recherche à l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social, où j'ai travaillé justement sur les systèmes alimentaires et sociétés, et surtout sur les femmes dans les systèmes alimentaires. Je l'ajoute parce que c'est important, ça montre aussi une autre de mes grandes passions, c'est les questions, la problématique du développement. Et ça m'a préoccupé tout le travail que j'ai eu à faire. Bon, il y a d'autres choses, mais c'était ça qui, pour moi, était le plus important.
Qu'il fallait rajouter.
Oui.
Je suis heureuse, je me sens privilégiée de pouvoir passer ce moment-là avec vous. Passer ce moment parce que, pour la figure que vous êtes, pour la femme que vous êtes, pour ce que vous avez représenté. J'évite de classer les gens comme des monuments parce que je trouve qu'il y a aussi une grande charge quand on considère quelqu'un comme étant un monument. Mais j'ai énormément de respect et d'admiration pour le travail que vous avez abattu, que ce soit pour la cause des femmes, que ce soit pour le développement en règle générale, pour tous les combats que vous avez portés pour la gauche sénégalaise en tant que femme politique, en tant que militante en règle générale. Je suis très heureuse d'être en face de vous, Madame Savané.
Voilà, on va passer un bon moment alors.
je n'ai pas de doute sur ça. Alors, quand on lit votre parcours, parce que vous faites partie des rares femmes que j'ai interviewées jusqu'à présent pour lesquelles j'ai trouvé réellement du contenu, du vrai contenu sur Internet. Parce que nous avons encore tendance aujourd'hui à ne pas forcément mettre les choses ou à trouver les choses que nous avons réalisées. Mais ce qu'on ne trouve pas et qui est l'objet de ces conversations-là, c'est derrière ce personnage, derrière cette militante qui est Marie-Angélique Savané. Parce que je pense que très peu de gens ne savent pas que Savané, c'est votre nom d'épouse.
C'est ça.
Voilà.
Oui, d'ailleurs, je chahute souvent mon mari en lui disant « c'est grâce à moi que tu t'es fait connaître ». Parce qu'au départ, tout le monde pensait que je m'appelais Sabanée.
Oui.
Quand on a lancé la revue « Famille et développement », j'avais signé ma première chronique « Marie-Angélique Sagna Sabanée
mm-hmm. ».
Et c'est vrai que c'est excessivement long. Et quand ils ont été sur le marbre à l'imprimerie du Soleil à l'époque,
oui.
ils ont trouvé que c'était trop long. Comme ils savaient que j'étais Madame Sabanée, ils ont supprimé le Sagna. Et c'est devenu comme ça, mon nom de plume
oui.
et mon nom quasi officiel. Et une fois, mon père est venu me voir au bureau. Et lui, tranquille, il dit, je viens voir Madame Sagna.
Oui.
Alors on lui dit, il n'y a pas de Madame Sagna ici. Il dit, celle que vous appelez Madame Sabanée, elle s'appelle Madame Sagna, ma fille. Et beaucoup de gens ont appris à ce moment-là mon nom. Et c'est vrai que pendant des voyages, surtout dans les pays d'Afrique de l'Ouest,
mm-hmm.
souvent les six Sabanées venaient me voir contents mm-hmm. d'avoir une sœur, une fille, une mm-hmm. tante s'appeler Sabanée. Je leur dis, je ne m'appelle pas Sabanée, c'est le nom de mon mari. Alors, je me suis engagée quand même
mm-hmm.
dans tous mes papiers, je mets épouse Sabanée.
Épouse.
Parce que pour une féministe, ce n'était pas bien lancé là.
C'est vrai, mais je le dis en riant parce que c'est exactement la même chose. Oui, Fall n'est pas mon nom.
C'est ça.
Fall n'est pas mon nom, mais c'est le nom de mon mari.
Mm-hmm.
Et pour le charrier, lui, je dis, c'est pas ton nom, c'est le nom de nos enfants.
Exactement.
Donc voilà, ça, donc j'ai pris le nom de nos enfants. Et voilà, je porte ça comme ça. Et du coup, je suis connue dans ce que je fais avec le Zoubida Fall plutôt que mon vrai nom de famille.
Okay. Ouais. Non, mais ça, c'est les aléas de la vie, hein, parce qu'on se retrouve dans des situations qu'on ne maîtrise pas,
mm-hmm.
mais les gens qui m'ont connue avant, qui connaissent en plus mes petits noms,
mm-hmm.
eux, chaque fois qu'ils me voient pour bien montrer mm-hmm. aux gens, nous on la connaît depuis avant longtemps, les gens m'appellent Marie-Angèle, mais mon petit nom c'est Néné.
Mm-hmm.
Donc ceux qui m'appellent Néné, ça veut dire qu'ils m'ont connue toute petite.
Exact.
Parce que moi je suis quand même une enfant de la colonie, comme on dit. Hein. Je suis née à l'époque coloniale. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de gens de notre génération dans le mouvement féministe.
Mm-hmm.
Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai vécu vraiment l'époque coloniale. En plus, dans toute sa complexité, parce que mes parents étaient des gens ordinaires. Mon mm-hmm. père était fonctionnaire, mais ouvrier. Ma mère couturière, elle avait été chez les sœurs
mm-hmm.
À l'Immaculée Conception. Et ils avaient tenu à m'inscrire à l'école Notre-Dame.
Oui.
Parce que je suis née à la rue du docteur Calmette. Notre-Dame était à 500 mètres.
Mm-hmm.
Mais Notre-Dame, c'était une école de tout bab.
Exact.
À l'époque, moi, j'ai fait toutes mes classes primaires. J'étais pratiquement la seule noire dans la classe. Et donc, j'ai connu très tôt cette capacité
mm-hmm.
de devoir m'adapter à deux milieux. Parce
oui.
que le milieu tout bab de l'Équateur, c'était des gens aisés de la colonie. Et quand je rentrais à la rue du docteur Calmette, c'était le quartier populaire, la moitié de la maison était en baraque, l'autre était construite, et je naviguais
entre
au quotidien dans ces deux mondes qui étaient diamétralement opposés.
Mais en termes de construction d'identité mmh. pour une fille, comment on relie ces deux mondes?
Justement, beaucoup de gens me disent toujours, bon, les gens qui ne me connaissent pas, chaque fois ils me disent, voyez, donc tout babé quoi, des mmh. trucs comme ça. Ils me disent, tu n'as pas l'accent sénégalais, des trucs comme ça. Et dans le même temps, je me pose ces questions, moi. Qu'est-ce qui m'a aidée mmh. à m'en sortir
mmh.
Parce que j'ai toujours été claire dans ce que j'étais. Mon père est un vrai Diola,
mmh.
Un vrai Bainouk. Donc, mmh. il nous a toujours élevés dans le respect de la dignité de ce qu'on est.
Mmh.
Donc, il ne nous a pas donné beaucoup de complexes. Au contraire, il faisait tout, lui qui avait fait la guerre, donc qui avait été en Europe, en France,
mmh.
qui dit, je refusais d'épouser leur fiancé de guerre, comme il disait qu'on les appelait, parce que je veux rester ce que je suis.
Mmh.
Je suis un Bainouk, j'ai la terre de mes ancêtres, j'ai mes terres mmh. en Casamance, pas question de changer. Et moi, j'ai navigué, et j'allais à l'école, je revenais pour vivre comme une Sénégalaise normale, avec les filles du quartier, dans mmh. la rue, les choses, tout ce qu'on faisait. Surtout dans les quartiers au plateau.
Mmh.
Et j'ai eu des moments très difficiles. Parce que parfois, les filles me disaient « sale négresse » parce qu'on se disputait pour une heure. Et j'ai eu à frapper des gens. J'ai fait combien de fois le pain sec parce que j'avais giflé une petite toubab. Il y avait quelques Libanaises paumées qui étaient là.
Oui.
Et franchement, j'ai dû me battre constamment mmh. pour être ce que j'étais. mais aussi avec les frustrations de voir ces petites blanches qui allaient jouer au piano. Pourquoi j'adore le piano? C'est à cause de ça. Elles pouvaient aller apprendre le piano. Moi, mon père n'avait pas les moyens de me payer. Déjà, payer l'école, c'était dur, des cours de piano. Il fallait toujours que je sois différente. Et en fait, ça m'a aidée beaucoup dans toute ma carrière, ma vie familiale, ma carrière professionnelle, etc. Je sais vivre dans la différence. Je suis dans la diversité. J'ai grandi parce que j'ai appris à m'imposer, parce qu'il fallait s'imposer littéralement sur tous les plans. Et j'ai fait cela jusqu'en troisième. Mais à partir de la quatrième, j'ai commencé à sentir le poids de tout ça. Je ne supportais plus, on venait, on avait l'indépendance et tout ça. Et je ne supportais plus l'école Notre-Dame. J'ai commencé les jeudis, on venait les jeudis en plus à l'époque pour préparer le brevet et tout ça. Alors je me mettais en pagne. Alors qu'on avait des uniformes, mais le jeudi, on ne portait pas l'uniforme, comme ce n'était pas toute l'école, c'était seulement la classe d'examen. Et une fois, la mère supérieure, je me souviendrai toujours, Mère Jeanne Lacroix, elle arrive, on était en rang là pour eux. Elle me fait signe comme ça. Elle était toujours droite. Je viens. Elle me dit, quel est cet accoutrement? Et je lui dis, c'est ma tenue nationale. J'avais 14 ans. Je lui dis, c'est ma tenue nationale. Elle me dit, vous allez m'enlever ça. Je lui dis, non, c'est ce que je porte. Parce que chez, ici, au Sénégal, c'est notre tenue. Et j'ai mené cette bagarre. Tous les jeudis, ma mère ne savait pas ce qui se passait. Elle comprenait, je lui disais. En plus, on était catholiques. Donc, à l'époque, on ne portait pas de tenue. Tout le monde devait être toubab. Donc, tout le monde était en robe, en jupe et autres. Et je disais à ma mère, il me faut un pagne. Mom, elle ne savait pas que je menais une bagarre en douce là-bas. Et la sœur, chaque fois, elle me disait de sortir du rang. Je sortais du rang. Elle me laissait là. Après, elle me disait de rentrer à l'école. Quand elle a vu au bout d'un mois que je ne tenais pas, elle a compris le message, je crois. Elle a laissé tomber. Et j'ai décidé, je ne reste plus là. Bon, ça m'arrangeait en plus parce qu'à l'époque, Notre-Dame, il n'allait pas au-delà de la seconde. Et j'ai fait ma première, ma deuxième révolte. Parce que la première, c'est quand j'avais 8 ans, 9 ans. On allait au Cœur Vaillant, en Vaillante, c'était un mouvement d'action catholique. Et toutes les filles du quartier allaient à la paroisse cathédrale. Et moi, je devais aller à mon école, c'était Notre-Dame. Ma mère me fait mon petit goûter à la toubab et tout ça. Je vais, je vois que des toubabs, des nains. J'ai dit non, je marche de Notre-Dame, j'avais 8 ans. Je fais le tour et je vais à la cathédrale où il y avait toutes mes copines du quartier. Et sans que mes parents le sachent, pendant combien de temps, moi, j'allais à la cathédrale, au CVAV le jeudi. Eux pensaient que j'étais à l'école. Donc ça, c'était ma première où je marquais ma différence d'être. Et à au BEPC, j'ai rien dit, j'ai pris mes notes. J'ai été voir, avant l'examen, j'ai été au lycée Vanvaux. Pourquoi Vanvaux? Parce que c'était à côté de Notre-Dame, je connaissais tout. Et je demande à voir, parce que maintenant je me dis, j'étais quand même culottée, je demande à voir le proviseur. Et le proviseur, M. Bourg, je me souviendrai toute ma vie de lui parce qu'il m'a sauvée vraiment, il me reçoit. Il avait une très grande famille, je crois qu'il avait 6 ou 7 gosses. Et je lui explique que j'étais à Notre-Dame et tout ça, mais je ne supportais plus, je me suis mise à pleurer. Je ne veux plus rester là-bas, je veux changer. Il me dit, pourquoi? Vous avez d'excellentes notes et tout ça. Et c'est une bonne école quand même, c'est organisé et tout. Je lui dis, oui, mais j'ai été là-bas depuis le jardin d'enfants, je ne supporte pas. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, bon, on se calme, vous passez votre examen, dès que vous avez fini, vous venez. Et je suis venue le lendemain des résultats. Et je lui dis, inscris-moi. Maintenant, mon problème, c'était comment dire à mon père que j'allais au lycée. Pour les filles catholiques de l'époque, le lycée, c'était l'enfer. On était avec les garçons. Comment, d'autant plus que j'avais grandi dans des quartiers populaires. Parce que de la rue du docteur Calmette, on avait déménagé à la rue Félix-Fort. Toutes les filles de notre génération sont tombées enceintes.
Beaucoup
de Capverdiennes, des trucs comme ça. Elles étaient toutes tombées enceintes. Et mon père, son truc, c'est comment, tant que j'étais chez les sœurs, il avait le sentiment que j'étais protégée. Aller au lycée, s'asseoir sur le même banc qu'un garçon, c'était la catastrophe. Et j'ai rien dit. J'ai attendu pratiquement à quelques jours de la rentrée. Ma mère me disait, mais ton trousseau, les choses comme ça. J'ai dit non, je vais au lycée. Mon père me dit, quel lycée? Lui, il ne savait même pas quel lycée. Et comment tu es partie au lycée? J'ai dit, je suis inscrite, je monte les papiers. Bien sûr, il m'a giflé. Parce que pour lui, je remettais en question son autorité, oui, sa puissance, oui, lui père qui, oui, doit décider, etc. Et ça, c'était ma deuxième révolte, parce que je leur ai dit, si je ne vais pas là-bas, je ne vais plus à l'école.
Oui.
Et pour mon père, c'était un enjeu, parce que quand même, il avait tellement investi pour que moi, j'aille à l'école. C'était intéressant. Mes frères ont été à l'école.
C'est ça
à
que je voulais demander.
Oui, exactement. Il les a emmenés là-bas.
Qu'est-ce qu'il faisait ? Voilà, qu'est-ce qu'il faisait, cette particularité ?
J'ai jamais su mon père. Pourquoi ? Bon, il faut dire que peut-être j'avais deux grands frères. Mm-hmm. Il y avait moi et j'avais deux petits frères. Et ma petite sœur est venue après.
Bien après.
Donc j'ai vécu.
Comme la seule fille, plus
voilà,
ou moins.
Voilà, seule fille entre quatre garçons. Mm-hmm. Et vraiment, il a tout fait pour m'apprendre tout ce que les garçons apprenaient. À nager, parce que lui, il avait fait du water polo et tout, mm-hmm, ça, à pêcher, à faire n'importe quoi, à conduire. J'ai conduit très tôt des Solex, des trucs comme ça, je savais changer. Tout, il a, mm-hmm, fait tout. Et je crois, quelque part, il a vraiment investi en moi, parce, mm-hmm, que son rêve, il faut voir même au moment du bac, mm-hmm, il fallait que je fasse droit. Il avait été voir un ami de mes cousins, mm-hmm, qui avait fait l'armée et ils étaient, eux, la sécurité à la fac de droit, mm-hmm, pour lui dire, dès qu'il m'aide à m'inscrire en droit, mm-hmm, sans me demander.
Oui.
Hein. Et puis il me disait, je veux que tu sois la première avocate défenseur. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire avocate défenseur? Parce qu'il connaissait les maîtres Fali Diop,
les maîtres Nian, voilà,
le père de Fatoumata Zahra Diop, qui étaient ses idoles, mm-hmm, parce que c'est les premiers Africains sénégalais qui défendait. Et lui, il voulait que je sois avocat. Je lui dis, j'ai jamais pensé à être avocat. Et c'est là aussi notre troisième clash.
Oui.
Parce qu'à ce moment...
Comment il a accepté la gifle? Parce qu'après vous avoir giflé, oui, maintenant, comment il fait pour accepter que vous alliez à Lamine Gueye contre son autorisation?
Non, c'était Van Vaux.
Oui, en ce temps-là, c'était Van Vaux. Lamine Gueye pour nous, je corrige. Lamine Gueye pour nous.
Et lui, non, parce que quand il a dit ça, bon, j'ai pleuré, mais je lui ai dit, je n'irai plus à l'école.
Mm-hmm.
Il n'avait pas le choix. Il avait déjà été tellement loin, oui, qu'il a fini par se fâcher. Ma mère lui a dit, laisse-la. Mm-hmm. L'essentiel, c'est qu'elle aille à l'école.
Mm-hmm.
Comme elle veut aller à l'école. Et nous, c'est ce qu'on cherche. Parce qu'on veut qu'elle devienne quelque chose et tout ça. Il faut la laisser. C'est comme ça que je me suis retrouvée au lycée. Et on a eu la troisième, oui, la troisième bagarre.
C'est bac.
Après le bac.
Oui.
Lui, il veut que je fasse droit. Moi, je voulais faire médecine. C'était un peu mon rêve. J'étais bonne sœur un peu, hein, parce qu'on était chez les sœurs. Parce que moi, j'ai vécu vraiment la vie des familles catholiques où on se réveillait le matin. Nos mamans nous disaient « Demlen Kerlabe ». Kerlabe, on allait jouer là-bas. Les garçons faisaient du foot. Nous, on jouait à la balle au camp. Mm-hmm. On avait qui ? Et puis les sœurs nous encadraient. Et
avec les ateliers de couture, de tout ça ?
Celle qui voulait. Moi, ouais, ma mère était couturière. J'ai toujours eu des problèmes par rapport à la couture. Je n'ai jamais aimé, peut-être, mm-hmm, par rapport à ma mère. Mais là, la chance que j'ai eue, il y a une des sœurs, elle a vu que j'étais différente. Parce que quand même, toutes les filles allaient à l'école publique,
mm-hmm,
qui venaient là-bas.
Mm-hmm.
J'étais la seule qui allait à
l'école privée,
à l'école privée catholique Notre-Dame. Et elle, c'était une religieuse de Jeanne d'Arc.
Oui.
Donc, il n'y avait pas les filles de Jeanne d'Arc, il n'y avait pas encore beaucoup de Sénégalaises.
Mm-hmm.
Et celles qui étaient là ne venaient pas à la paroisse parce que leurs parents habitaient à l'extérieur.
Mm-hmm.
Et c'est comme ça que la sœur, quand elle a vu que j'étais toujours fouillée parce qu'elle avait mis une petite bibliothèque là, j'ai lu tout, elle a commencé à demander. Les Toubab, mm-hmm, offraient des livres, les livres d'école et tout ça. Et il y avait dans cette pièce existe encore. Quand je vais à la cathédrale, je vois, c'est devenu une salle de classe. Elle avait fait une petite bibliothèque, mais, mm-hmm, personne ne lisait. Et, mm-hmm, moi, je lisais tout.
Mm-hmm.
Et la sœur m'a prise un peu en protection et elle m'a fait lire. C'est-à-dire qu'elle allait chercher tous les livres que les Toubab donnaient. Elle allait, bon, à l'époque, il n'y avait pas là encore le Centre culturel français et tout ça. Et c'est elle qui vraiment me... Et pendant que les autres, certaines faisaient de la couture, d'autres faisaient autre chose, ou jouaient à la balle au camp,
mm-hmm,
moi, j'étais là, assise, à lire.
Mm-hmm.
Et franchement, j'avoue que ça m'a orientée beaucoup, parce que pendant que les autres, moi, je rêvais, je passais mon temps à rêver.
Mm-hmm.
Parce qu'à l'époque, les livres qu'ils faisaient, c'était des livres pour enfants, mais qui ne te parlaient que de l'Europe.
Mm-hmm.
D'autant plus que moi, je suis venue, notre période de la colonie, mm-hmm, on n'apprenait pas l'histoire du Sénégal,
oui,
ou l'histoire d'Afrique. Donc, moi, c'est quand... Et j'ai raté toujours les réformes,
oui,
où on introduisait. Nous, on passait,
exact,
et c'est après qu'on introduisait. Et donc, je connaissais par cœur tous les trucs en France, la Suède, la Norvège, parce qu'il y avait, des romans sur les comment on les appelle, les fjords. Il y avait aussi les sorciers, les petits sorciers, les lutins. Oui. Enfin, je connaissais toute cette panoplie et je rêvais de ces contrées différentes, la neige, bien sûr, etc., etc. Mm-hmm. C'est pour ça que je dis, je viens de loin. Parce
exactement.
Que, naturellement, j'étais portée à m'exiler.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux. Par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie. Et
du coup, c'est étonnant, c'est étonnant pour moi, parce que vous venez d'une culture qui est totalement sénégalaise, Diola, etc. Vous grandissez dans un milieu avec l'éducation scolaire européen, européano-centré, comme on dirait.
Tout à fait.
Et on vous retrouve quelques années plus tard, militante, rentrée au Sénégal, militante, féministe, et qui vous battez tous les jours pour les droits des femmes, pour qu'elles puissent accéder. Comment s'est fait cette transition? Parce que d'où vous est venu votre militantisme? Pourquoi particulièrement, on va dire, pour cette femme sénégalaise-là, que vous n'étiez pas en ce temps-là, exactement. Parce que vous n'étiez pas cette femme sénégalaise-là.
Exactement, exactement. Bon, faut dire, tout est venu encore des religieux. Dans notre religion catholique, quand on nous encadrait, la formation qu'on recevait, en tant que cœur vaillant, âme vaillante.
CVAV.
Âme vaillante, CVAV, ah ben, elle connaît.
J'ai fait l'école catholique.
Ah, voilà. Et âme vaillante, notre devise, c'est à âme vaillante, rien d'impossible.
Oui.
Moi, ça a été mon truc. Hein. J'ai peur de rien parce que à âme vaillante, rien d'impossible. Et les sœurs, très tôt, nous ont habitués, nous ont, comment dire, donner la possibilité de comprendre que le monde n'était pas ce qu'on voyait autour. Et on allait vers les gens plus démunis que nous. Pourtant, on venait tous de familles relativement pauvres, modestes. Mais on allait dans les quartiers plus fatigués, on allait dans les villages. On faisait du théâtre pour les lépreux, par exemple. Il y avait la journée Raoul Folro. Ce dimanche-là, on allait distribuer, chercher de l'argent pour les lépreux.
Vous me ramenez à Notre-Dame de Lourdes, là, voilà. Mes années.
On allait danser, on faisait du théâtre, on allait à Pékou. J'ai connu, une fois, j'ai été faire une campagne politique. Je viens et je dis aux gens, filles, j'avais peut-être 12 ans, 13 ans. Puis ils disaient, mais à l'époque, c'était un village de lépreux, mais vraiment très avancé. Maintenant, ils sont guéris tous. Et ils me disaient comment ? J'ai dit, on venait faire du théâtre. Donc, ils nous ont sensibilisés à la pauvreté, aux inégalités sociales, etc. On sortait aussi de Dakar. Bon, les Libanais qui étaient dans les histoires de cacahuètes, là, donnaient leurs camions. On nous mettait dedans. On allait à Popinguine en pèlerinage ou aller dans les villages, descendre, faire du théâtre et tout ça. Donc, j'avais cette sensibilité anti-pauvre. J'avais cette sensibilité anti-justice parce que je vivais bien. Je voyais qu'entre moi et les Toubabs, et une des bagarres que j'avais souvent avec les Toubabs, c'est que, bon, elles étaient nulles la plupart parce qu'elles avaient des parents aisés, elles ne voyaient pas le truc. Il y en a quelques-unes seulement qui étaient vraiment, qui travaillaient. Et je passais mon temps à aller chez elles. Elles me disaient, elles m'invitaient à dégoûter pour que je puisse faire leurs devoirs, leur montrer des trucs comme ça. Donc, j'ai vu aussi comment elles vivaient. Moi qui partageais le lit avec ma sœur et des trucs comme ça. Tu vois. Donc, je connaissais les différences. Mais je ne les expliquais pas. Je ne les expliquais pas. En terminale, je suivais les cours de religion. Il y avait un prêtre dominicain qui nous avait fait des fiches sur les différentes idéologies. Il y avait le socialisme, le communisme, le capitalisme. Je me souviens parfaitement. Mais bien sûr, il se gardait de nous dire ce qui était. Les Dominicains étaient assez portés sur la cause sociale. Donc, j'ai été sensibilisée. Ce qui fait que quand j'ai été à Paris, Les gars nous ont contactés pour adhérer à l'ANSF, l'Association des étudiants sénégalais en France, et ont commencé à nous parler de l'impérialisme et tout ça. Ça a fait tilt dans ma tête. C'est-à-dire, c'est là où j'ai commencé à voir les explications que ce que je croyais naturel ne l'était pas.
Ne l'était pas.
Que ce que je pensais, bon, normal que ma mère et soit comme ça, que les toubabs soient là, que l'impérialisme, c'est quoi? Et là, j'ai dit, mais c'est ça. Et comme j'avais déjà cette fibre de militer contre quelque chose, d'être concernée par ce que les gens vivaient, comment on pouvait les aider, donc ma fibre sociale, c'est politisé, a connu un contenu politique, et j'ai dit c'est ça. Et alors, comme en plus je suis de nature passionnée, vous m'entendez, vous le voyez, je me suis engagée à fond. Parce que je disais, voilà ce que je n'avais pas, le maillon qui me manquait, et puis vint 1968. Je me retrouve à Paris. Je ne comprends pas ce qui se passe parce que c'est des Français, 68, des Nuréo. Bon, eux, c'était le trop-plein. La Suisse en avait marre. J'écoutais l'autre jour un passage là, du film de Godard. Je ne sais pas quoi faire. Je m'ennuie. Ils s'ennuyaient. Et nous, on était là. On était on préparait les grandes écoles. Fatiguée parce qu'on n'était pas... Senghor nous avait choisi les 10 meilleurs. C'est quand il a commencé les bourses d'excellence. On nous a envoyés sans qu'on sache même ce que c'était une classe préparatoire. Et on se retrouve, croyant nous qu'on allait aller à la fac. C'est plus relax que le lycée. C'était encore pire. Parce qu'il y avait un rythme de travail intenable. Et il fallait qu'on s'inscrive aussi à la fac. Parce qu'il fallait mener le père des deux au cas où ça ne marchait pas. Et je me suis retrouvée dans le mouvement étudiant. Et donc, j'ai adhéré aussitôt au cercle. Il y avait des cercles clandestins que les étudiants avaient construits où on était formés au marxisme. Et j'ai commencé à apprendre. Mais vraiment, on le faisait sérieusement parce qu'il y avait des exposés, des débats, des échanges et tout ça. Et franchement, ça a été la lumière. Parce que j'ai compris tellement de choses. Comment nos sociétés étaient organisées, comment on nous justifiait la présence de l'impérialisme français, en l'occurrence, le monde, les relations internationales. Et franchement, je n'oublierai jamais ces moments-là. Parce que ça a été comme une espèce de réveil, de bang, de big bang en moi. Tout d'un coup, je me dis, mais c'est clair.
Et que ce qu'on pense être naturel, en fait, et que nous avons intériorisé et accepté, n'est en rien.
C'est construit.
C'est construit.
C'est construit.
Et je pense qu'il faut qu'on parle de construction sociale. Parce que
exactement. Et cette construction sociale, il fallait la... Comment dire, le filico.
Oui, il faut la déconstruire.
Arriver à expliquer aux gens le pourquoi, pour qu'ils s'engagent. D'où le militantisme. Parce que le gros problème qu'on a au Sénégal aujourd'hui, les gens ne sont pas formés. C'est quelqu'un qui se lève qui dit « je vais être ministre ». C'est quelqu'un qui se lève qui dit « je vais être chef de parti, comme ça je serai candidat à la présidente ». Mais tu es porteur de quoi? Quelle est la cause que tu défends? Qu'est-ce qui fait que tu es prêt à te sacrifier, à laisser tomber tous les bons côtés de la vie? Parce que nous, notre engagement à l'époque, on était jusqu'au boutiste.
Et ça me fait penser à... On a eu une conversation sur les spaces Twitter qui sont des espaces où on peut parler en audio à plusieurs. Qu'un ami a demandé, est-ce qu'il existe encore une gauche sénégalaise? On dit, en fait, en réalité, il n'y en a plus. Et on demande au parti en vogue, au mouvement en vogue, quelle est votre idéologie? En fait, non, faisons ça. Vous êtes de droite, vous êtes de gauche. Nous sommes Soupoukandia. Donc, on essaie de prendre... C'est quoi ce truc? Vous voyez,
c'est des confusionnistes. Mais à la fois, c'est des confusionnistes, mais dangereux.
Oui.
Parce que c'est des populistes.
Oui.
Ils refusent de s'engager parce qu'ils savent que l'engagement, ça veut dire que tu vas mettre en œuvre ce que tu dis.
Exactement.
Il y a une gauche sénégalaise encore.
Oui.
Non, faut pas. Non. Les gens ne sont plus organisés. C'est-à-dire, souvent, j'essaie d'expliquer aux gens, je me dis, il y a une dame, plus jamais aujourd'hui encore qu'avant. Mais on a eu une histoire. Au départ, les partis politiques n'étaient pas autorisés. On a été clandestins. Avec tous les risques, on nous a arrêtés, on a torturé des gars. Il y a des gens qui jusqu'à présent, ont des séquelles de ces tortures-là. On publiait de nuit, je sortais, j'étais enceinte. on allait distribuer nos journaux,
a perdu Harabi une grossesse.
Et tout voilà. ça, voilà. On allait marcher dans la brousse pour se réunir parce qu'on ne pouvait pas se réunir normalement. Et on était prêts à donner nos salaires. Moi, je donnais, j'étais la seule qui avait une position internationale. Je donnais la moitié de mon salaire pour le parti et ça n'a jamais été un problème pour moi. J'aurais
le
pu
financement
être
des parties, ouais.
riche aujourd'hui parce que je n'ai eu que des boulots qui payaient très bien. Mais on finançait le parti. Et aujourd'hui, justement, le changement, c'est quoi ? C'est que les gens ont fait de la politique à l'américaine. Mmh. Avec, quand on fait, nous, nos premières campagnes électorales, chacun donnait sa voiture, qui était déjà brinque-ballante. On a fait des campagnes, il fallait voir, quand on rencontrait Abdou Diouf, les gars, nous voyons, eux, ils avaient leurs trucs et tout ça. Donc, on était dans... Mais
dans des voitures poussives.
Oui, mais on était heureux parce qu'on pouvait enfin... parler au grand public, avoir accès à la télé, avoir accès à la radio. C'est pour ça qu'on a été candidat. Quand la première fois, les gens disaient, mais Landing,
en 92 88,
pourquoi
désolé.
Pourquoi il se présente, il dit candidat sans illusion. Ça voulait dire ça, il n'était pas là pour gagner. On savait quels moyens on avait. Mais on a pu marquer l'histoire de ce pays en mettant sur la table des principes, des valeurs que les gens n'entendaient jamais. En disant, il y a des alternatives possibles. On peut diriger le pays autrement. On peut vivre autrement. On peut avoir une souveraineté nationale. On peut avoir une souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on est là en train de pleurer parce que l'inflation, c'est cher. On n'a pas quoi. On n'a pas besoin de blé. On n'a pas besoin de manger du pain blanc. On peut le faire parce que traditionnellement, les gens mangeaient ce qui était l'équivalent du pain. Le riz, on nous l'a importé, on dit c'est notre truc national. Non, c'est en Casamance qu'il y avait des bas-fonds. C'est dans le Sine Saloum où il y avait des rizières, mais le reste ne connaissait pas. La colonie nous a imposé le riz qui venait d'Indochine, c'est-à-dire le Vietnam maintenant, le Cambodge, etc., pour qu'on puisse cultiver l'arachide. Et à ce moment-là, ils ont subventionné parce que ça coûtait moins cher pour les fonctionnaires, etc. etc. Et j'ai passé des années à expliquer ça. Je faisais des conférences partout, etc. Parce qu'on croyait que c'est la conscience qui amène les gens à agir. Aujourd'hui, les gens n'ont aucune conscience. Ils n'aiment pas Macky Sall. C'est l'objet de politique, tout sauf Macky. Bon, ça ne va pas loin.
Ça
parce que Macky
loin,
va partir, un autre va venir, il va faire la même chose que Macky. Donc, il faut combattre les structures, l'infrastructure, ça, je dis les termes qu'on utilise.
Oui, il n'y a pas de souci.
Il y a structures, superstructures qui sont à l'origine, parce que je ne veux pas dire le mot système, parce que les gars l'ont galvaudé.
Oui, on est d'accord.
Ça ne veut rien dire. Il y a un système capitaliste, il y a un système socialiste. Alors ton soupe gagneux, tu vas le voir parce que tu n'es ni l'un ni l'autre. Mais ça veut dire que tu es un menteur, ça veut dire que tu es un complotiste, ça veut dire que tu veux raconter aux gens ce que tu veux parce que tu ne t'engages à rien.
Oui.
Ça reste général. Et
c'est très général. Et je trouve assez marrant quand quelqu'un dit, un politicien dit, quand on lui pose la question, quels sont, supposons, vos domaines prioritaires, il dit l'éducation et la santé. Je dis oui, mais ça, ça ne veut rien
ça
dire.
Ça
ne
veut rien
en fait.
Dire.
On est d'accord.
Voilà.
Voilà.
Quelle est la structure économique qui génère le type d'éducation et le type de service de santé.
Exactement.
Et non, ils ne peuvent pas parce que ce qu'ils veulent, c'est pour soi que je m'y mette. Être khalife à la place du khalife. C'est tout. Alors, il y a un problème aujourd'hui. Il y a un gros, gros, gros problème. Parce que même dans nos partis dits de gauche, on ne peut plus asseoir les jeunes pour leur dire il faut une formation. Ils te disent oui, mais ils ont là le responsable des jeunes de tel, du parti.
Il fait des
tel.
Vidéos.
Il a une 4x4. Nous sommes des réunions de coordination, nous sommes des bus, nous sommes des réunions. Tout tourne autour des moyens financiers qu'on a. Et la gauche, de manière générale dans le monde, avec le néolibéralisme qui a pris cette ampleur-là, est tombée. Mais comme l'échec du néolibéralisme qui était prévisible, on le voit, depuis combien d'années on a crise après crise. On a crise des subprimes, après on a une autre crise. Ceci, ça ne finit pas, parce que c'est ce système qui est détraqué. Un système ne peut pas marcher pour moins de 10% de la population. Quand le monde entier vit dans la pauvreté, la misère, que les gens n'ont pas accès à l'eau potable, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, ce système est mauvais. Mais il est bon pour 20%, parce que les 10% ont tout. Ils prennent 10, peut-être 15% de classe moyenne élevée à qui on donne. Et tout le monde maintenant va rêver Le pauvre qui est là-bas dans son village va rêver, mm-hmm. qu'il va avoir un frigo, qu'il va avoir ceci, cela. Et c'est peut-être 30% de la population mondiale mm-hmm. va bousiller la nature, mm-hmm. détruire l'écosystème et tout le monde entier souffre du réchauffement climatique mm-hmm. parce que simplement il y en a 30 qui surconsomment, qui gaspillent comme ce n'est pas possible et qui agressent la nature.
C'est le moment pour moi pour dire à tous les Africains, que vous n'avez pas d'empreinte. Vous n'avez pas d'empreinte carbone. Hein. Faut pas qu'on vous fasse croire le contraire. Parce que j'arrête pas de dire ça à tout le monde, à chaque fois sur le ton de la rigolade. Mais je le rappelle, hein, les Africains, nous n'avons pas d'empreinte carbone. Faut qu'on nous laisse tranquille.
Et il faut qu'on reprenne le débat mm-hmm. au point de départ. Mm-hmm. Moi, c'est ce que je dis maintenant. Le temps qui me reste, c'est ça que j'ai envie de faire. Je mm-hmm. ne peux plus, je n'ai plus l'énergie comme je faisais de travailler toute la semaine. Mm-hmm. J'étais à l'international, donc je voyageais, je revenais. Le vendredi après-midi, mm-hmm. dès que je terminais, je prenais la route. Mm-hmm. J'allais, soit je prenais un avion pour aller, quand c'était en Casamance, mm-hmm. Le samedi matin, je prenais le premier avion à mes frais pour aller faire une conférence publique mm-hmm. à Ziguinchor. Visiter après les militants, mm-hmm. aller dans des villages, mm-hmm. Le dimanche après-midi, je reviens pour le lundi, mm-hmm. peut-être partir quelque part, etc. Ou le vendredi, aller à Saint-Louis ou à Thiès ou à Tamba, on faisait des choses que personne ne veut faire maintenant parce qu'il faut avoir les conditions. Et j'avais pourtant un bon lit, je me couchais ben en dessous par terre mm-hmm. parce que c'était ça le militantisme. Mm-hmm. Il fallait se mettre au niveau des gens pour que les gens comprennent que malgré l'ingam, et pourtant à l'époque, nous, on ne disait pas je veux être président, mm-hmm. Il faut voter pour moi, etc. Mm-hmm. etc. Mm-hmm. Mais on disait aux gens, c'est vous qui faites votre histoire. Mm-hmm. C'est quand vous allez comprendre, mm-hmm. que vous allez savoir, mm-hmm. que vous avez les capacités de défaire, mm-hmm. de déconstruire ce qui existe là, vous connaîtrez votre puissance. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on était dangereux. Mm-hmm. Parce qu'on appelait les gens pas à une révolte qui n'était pas pensé, mm-hmm. mais à une révolte politique mm-hmm. pour bâtir un système. Mm-hmm. On s'est battu dans la clandestinité parce qu'il fallait que cette démocratie puisse exister. Enfin, quand je regarde maintenant les kiosques, je vois tous les journaux. Nous, un journal à l'époque, il y avait Le Soleil. Mm-hmm. Nous, on était obligés de sortir par des Ronéos et des tracts, un journal Haribi clandestin. Oui.
Et vous alliez en prison pour ce journal.
On allait en prison pour ça. Une fois, ils sont venus à mon bureau. J'étais mm-hmm. quand même chef de projet, rédactrice en chef d'une revue qui était publiée dans 24 pays francophones. On vient dans mon bureau, on m'arrête. Pourquoi ? Parce qu'on dit, on pense que c'est moi qui joue le rôle de ministre des Affaires étrangères. Donc,
du gouvernement clandestin.
Du gouvernement clandestin. Parce que je voyageais, on prenait des contacts. Et effectivement, c'est j'ai vrai. Joué ce rôle. Ça, je l'ai joué, ça, c'est sûr. Parce que quand j'allais, que ce soit au Mali, tous les pays, les 24 pays africains que je connais, dans le monde entier, en France, ailleurs, je contactais des gens comme nous, mm-hmm. que ce soit des Français, des Belges, des Américains, des Canadiens, qui étaient de la gauche pour qu'on essaie de faire des alliances et tout ça. Mais on m'arrête devant tout le monde sans aucun. Il n'y avait pas de mandat d'arrêt, ni rien. Mm-hmm. On me prend, on m'amène au commissariat central, on me garde 8 jours.
Quand
8
même,
jours,
hein.
sans rien dire. Plusieurs fois, ils me l'ont fait. Plusieurs fois. Mais moi, ce qui a permis que je travaillais pour un organisme international. Mm-hmm. Donc, venir me prendre comme ça, ça faisait un peu désordre. Mais il me prenait, il me faisait peur. Pendant ce temps, mon mari était en prison parce qu'il l'avait arrêté, il l'avait mis en prison. Donc, on essayait de savoir par moi comment j'étais suivie. Mm-hmm. Ils étaient devant chez moi. Mm-hmm. On habitait à Gibraltar. Il y avait un banc devant la porte, un banc public. Les policiers, le matin, ils venaient s'asseoir là. Toute la journée, donc quand je descendais le soir, ils regardaient qui rentrait, qui sortait et tout ça. Bon, mais on a accepté tout ça parce que ça faisait partie du militantisme. Mm-hmm. Et tu te bats contre un État, il ne faut pas rêver mm-hmm. de croire que tu vas te battre contre quelqu'un et on va te laisser, dès qu'on t'appelle, tu appelles toutes les radios, télévisions, suivez-moi, je vais aller répondre à l'appel du juge et des choses comme ça. Mm-hmm. Or, nous, ça se faisait dans l'illégalité en plus, mm-hmm. parce qu'ils n'avaient même pas de reproche à nous faire. Mm-hmm. Jusqu'au jour où ils ont trouvé le journal Haribi, parce que des camarades allaient distribuer le car qu'ils ont pris mm-hmm. a fait un accident et le sac a éclaté, s'est éparpillé. Mm-hmm. Les gendarmes ont vu, on a arrêté un, l'autre a pu fuir mm-hmm. et il est parti jusqu'en Guinée-Bissau. Et l'autre malheureux qu'on a attrapé, on l'a torturé à mort, il a donné des noms. Mmh. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à remonter et à arrêter. C'était vraiment ce qu'on a appelé les événements de 75. Alors, je rappelle tout ça pour dire que c'est important que les gens, aujourd'hui, je vois des gens qui ont le culot même d'insulter des gens sans savoir qu'aujourd'hui, la liberté qu'ils ont, eux, d'insulter Macky Sall, c'est parce que des gens se sont battus pour simplement exprimer une pensée politique.
Exactement.
Et qui n'a jamais eu, de tout ce qu'on écrivait, je regardais encore, on a fait un truc du journal Kharibou, il y avait des articles très durs. Mm-hmm. Jamais on a insulté quelqu'un. Ce n'était pas les individus. Mm-hmm. Ce n'est pas Macky Sall qui nous intéresse. C'est le système que Macky Sall représente. Et quand il partira, un autre viendra, jusqu'au jour où on va battre ce système. Mmh. Et je suis persuadée, je le crois, qu'on va battre ce système. Mmh. Parce que l'avenir de l'humanité, c'est que les gens aient accès à un minimum de décence pour vivre. Mmh. Et ça veut dire qu'il faudra changer fondamentalement la manière de vivre, de gaspiller, pour que les gens de Fongolimi puissent aussi rêver. Si moi je peux avoir des enfants, mes petits-enfants qui rêvent de devenir quelque chose, le petit de Fongolimi ne va pas rêver que son horizon s'arrête au village. Parce qu'on apportera le développement jusqu'au village. Exactement. Donc c'est un peu ça qui me fascine, qui m'a fascinée pendant toutes ces années et qui a été à l'origine de mon engagement, mariage. Je suis catholique, j'épouse un musulman. Problème dans la famille, parce que ça ne se faisait pas. À l'époque, l'église n'était pas ouverte, c'était surtout des Touabs. Mm-hmm. Bon, ils m'ont rejeté parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, surtout avec toute la trajectoire que j'avais suivie, que j'étais encadrée, tout ça, que moi-même j'ai été cheptaine au niveau le plus élevé de le diocèse, j'ai fait tous les trucs bien.
Oui.
Et je me retrouve avec un musulman. J'avais dit qu'il ne fallait pas qu'elle aille en France.
Que mostrava esse caminho passado mim. Que mostrava esse caminho longe. Que mostrava esse caminho longe. Esse caminho passado mim. Saudade, saudade, diz minha terra sem enclave. Saudade, 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 diz minha terra sem enclave. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem.
Je ne sais pas si les gens maintenant peuvent se rendre compte de ce que ça peut être d'avoir fait ça. Je ne sais pas quelle analogie je pourrais donner, parce que je pense que notre génération et celle qui vient d'après ne se rend pas compte de la transgression que ça a été pour vous en tant que catholique de vous marier à cette époque-là.
Mon père est devenu fou. Mon père est devenu fou parce qu'il avait l'impression d'avoir échoué sur toute la ligne.
Oui.
Voilà ce monsieur qui avait investi, mais vraiment mon père, il a tout fait. Il a tout fait parce qu'il avait l'impression, en fait, comme dit ma mère, on a le même caractère. Donc, il se retrouvait en moi. Et il disait que si on l'a acquis, elle ira loin. Tu vois, il avait l'impression que c'est à travers moi qu'il allait vivre.
Et l'histoire de la place revient à la place qui vous était destinée.
C'est ça.
Oui.
C'est ça. Et ça, c'est pour ça, même aujourd'hui, quand je vais à la messe, le dimanche, je m'assieds à la place où mon père s'assied. Tous les dimanches, je m'assieds là parce que je me dis, c'est ça qu'il aurait voulu.
Oui.
Tu vois. Et quand donc il fallait se marier, on était en France, je lui dis, j'ai rencontré quelqu'un et on parle de mariage. Mon père, pour lui, il ne s'est pas posé de questions.
Non, il
c'était
peut pas.
Tellement évident que ce serait un catholique.
Oui.
Il me dit, j'espère que ce n'est pas un Touab. Bon, oui. C'est ça qu'il ne voulait pas. Mais non, ce n'est pas un Touab. C'est un Sénégalais, il est de la Casamance. Je m'arrête là.
Vous êtes bien gardé de...
Puis après, j'ai écrit. Mais il est devenu fou.
Vous avez écrit une lettre à votre père?
Oui. Parce que j'étais en France.
OK.
Donc, lui, ils étaient là. Et à l'époque, il n'y avait pas les téléphones. Eux n'avaient pas de téléphone. Oui. Et j'ai écrit pour expliquer, voilà, nanana. Mon père n'a pas répondu. Il a dit, quand tu viendras,
ça
tu me diras ça face à face. Il a dit à ma mère, dis-lui ça. Et il a mobilisé toute la famille. Il est devenu fou. Parce que c'était une remise en question tellement profonde. Lui qui était...
De ce qu'il est, fondamentalement. Oui.
Le chef de famille. Il dit, moi, dans l'initiation, je n'étais pas n'importe qui. Ouais. Et puis pour lui, c'était vraiment tout qui s'écroulait. Mes badiens sont venus de Casamance pour me dire, qui tu es, petite fille? Tu vas dire que toi, c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides contre ton père. Si ton père voulait, il n'y a pas de problème. Mais il ne veut pas, bougoule. Et il y en a une qui est restée, qui a dit, Dukonango. Et alors ma pauvre mère, c'est les mères qui cassent. Mon père a dit à ma mère, si elle le fait, tu pars avec elle. Ah oui, non, c'était un gros, gros, gros problème. Un gros souci. Et j'avais que ma mère qui n'osait pas dire quelque chose. Mais il y avait ma marraine qui m'avait baptisée à l'église, qui, elle, elle était, elle, parce qu'elle, c'était déjà une transgression, elle était métisse. Son père était Touba. Donc, elle, elle me dit, qu'est-ce que... Li, Nobel, il y a le mot Koutou de Dieu, il dit Gemial. C'est Dieu, pourquoi elle va jusqu'en France, c'est là-bas qu'elle trouve quelqu'un, pas ici et tout ça. Mon père lui a dit, si tu parles, toi, tu sors de la maison. Finalement, ça a été une catastrophe. Et j'ai dit, bon, c'est compliqué. C'est pas la peine. Moi, je me marierai en douce. Kendouye, kendouham. Bon, le père de mon mari a essayé de venir. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont été dans l'armée dans la même période. Mais mon père, ça n'a rien changé. Il a dit, je veux pas, je veux pas. Si elle le fait, elle quitte chez moi, elle s'en va. Bon, c'était dur parce que quand même,
et vous êtes marié contre votre
tout
père.
Mon entourage a eu peur.
Oui.
Bon, parce que mon père était vraiment quelqu'un de très charismatique, qui gérait tout le monde. On avait des parents qui étaient ministres et tout ça. Eux tous, le dimanche, venaient chez nous. Voilà, il avait ce côté-là. Et alors, mais c'était surtout ce qui m'a gênée, c'est le milieu catholique. Parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas, mais surtout que je m'opposais à mon père et je me suis retrouvée seule. Donc, le jour de mon mariage, on était les deux mariés et chacun son témoin. On s'est mariés à la mairie, tranquille, personne ne savait. Et puis, ça s'est passé comme ça. Et mon père le savait parce qu'il a été pour la publication des bans. Il connaissait des gens à la mairie et il leur a dit, si je venais pour la publication des bans, qu'on l'informe. Mugno, il a laissé opposer. Le gars lui a dit, et c'était un vieux, je me souviens, parce qu'il avait une fille catholique aussi, qui lui dit, ma fille, elle a eu un enfant. Si j'avais aujourd'hui quelqu'un de mon coco, parce que je, elle n'a rien. Elle veut se marier, au lieu de faire des histoires et tout ça, mon père a dit non. Donc, on s'est débrouillé. Le vieux, là, était très sympa. Il ne lui a rien dit. Donc, nous, sans que personne ne sache, je suis allée me marier. Et c'était marrant parce que... donc, j'étais revenue au Sénégal et j'avais été élue comme déléguée de la première délégation d'étudiants qui siégeait au conseil de l'université. On avait fait... C'est la première fois qu'il y avait un vote à l'université de Dakar. Et quand on a voté, j'ai eu le plus de voix. Ça aussi, c'était intéressant. J'étais une femme. Mais je venais de Paris, auréolée de mai 68. Je savais parler, je savais articuler, je savais expliquer. Les gars étaient fous. Et ils disaient, mais la femme là, et puis parce qu'elle monte, j'avais mon Solex. Je montais pour faire des dadjibao, des trucs comme ça. Je distribuais des tracts. Ils m'ont élu. Bon, ça a créé un autre problème parce que les anciens qui étaient là à l'université, qui étaient les anciens leaders, tous masculins, les Maïgnac, les trucs comme ça, les Batili et autres, j'ai eu plus de voix qu'eux, tu vois. Et alors, les gens ont dit, donc c'est elle qui va diriger la délégation. Patatras, c'était la veille de, du mariage. Et le truc, c'était le vendredi et le samedi. Je devais me marier le samedi matin à la mairie. Et le conseil, alors comment leur dire, après toutes ces histoires-là, que moi, je ne pourrais pas venir le samedi parce que je dois aller me marier. Alors, j'ai rien dit. Je suis venue le vendredi parce que c'était le jour le plus important. On devait élire le recteur. C'était la première fois qu'on élisait un recteur. Et c'était Souleymania. Je me suis battue comme une lionne parce que le gouvernement avait comme candidat Seydou Madane ici, qui me l'a rappelé d'ailleurs quand il me décorait de la Légion d'honneur, qui me disait, vous voyez la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez fait rater le truc.
Le rectorat. C'est,
oui, le rectorat. Oui. Et on a nommé Souleymania, qui était plus proche des syndicats d'enseignants sénégalais et tout ça, etc. Et le lendemain, je leur dis, le soir, je ne pourrais pas venir parce que celui-là me dit, oui, Nakangeki, tu ne peux pas venir. J'ai dit, bon, Baya, comme lui, c'est l'ancien, il n'a qu'à diriger. J'ai couru pour aller me marier. Et dès qu'on a fini, je suis revenue pour aller à la réunion après-midi, etc. Voilà comment je me suis mariée.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Et quand je le dis, alors des fois, je sors les photos du mariage. Je me dis, yo, Manélène.
Ce mariage, oui,
oui, oui. Et mon frère, mon grand frère, parce que personne dans la maison, mais ma mère, je lui avais dit la date. Elle a pleuré, elle était malheureuse, tout ça, en descente. Bon, l'oppression des femmes.
Oui.
Elle n'osait pas parler.
C'est de sa faute, hein. Quand sa fille ne marche pas droit, c'est de sa faute de toutes les façons.
Elle risquait de partir et de laisser toute la famille derrière. Elle a dit à mon frère, Amal Diom, elle a réveillé mon frère, elle lui a dit, Demal, ta soeur se marie, au moins, nous traoulko. Et c'est comme ça qu'on voit, il est venu, on avait pratiquement fini, il y a une photo où on voit le bon frère au fond, là, qui était là.
Assis.
Et nous, on avait nos deux témoins, dont une amie vraiment qui m'a soutenue. Parce qu'elle, quand elle avait eu les problèmes, elle était tombée enceinte avant. Moi, je l'avais aidée beaucoup en étant en France, lui envoyant des trucs et tout ça. Elle m'a dit, même pas, Bissoumaré, moi, je serai là avec toi.
Oui.
Et c'est elle qui a... Donc, pour dire que ma vie a été...
Les amitiés sont puissantes.
Oui,
les amitiés comme ça sont extrêmement puissantes.
Oui, oui, parce
puissantes.
Que quand même, c'est des gens... moi, tu sais, jusqu'à présent, des fois, je vois des amis d'enfance qui n'osent même pas s'approcher pour me dire...
Oui,
parce qu'elles disent, mais tu te rends compte, quand on était au quartier, maintenant, ce que tu es devenu. Mais je n'ai jamais changé de ça. C'est-à-dire, j'ai eu, comme je dis, j'ai cette capacité... de m'adapter à toutes les situations. Les gens qui me voient en campagne, quand on fait de la politique, ne disent, c'est pas possible. Mais qui, Madame Sabanel? Pourquoi? Parce que je sais m'engager jusqu'au bout. C'est-à-dire, comme nous, Mao Tse-tung disait, il faut apprendre à être comme un poisson dans l'eau. Et c'était ça notre leitmotiv. Quand on va chez les gens, une fois on m'a reproché, lors d'une campagne électorale en Casamance, on me dit, mais madame, ça va être simple. Parce que l'ima am, l'igé bo hamé, n'y a pas mon yoko am. Donc, il faut qu'on change aussi.
Oui.
Et que vous acceptez. Mais les gens étaient choqués. Et certains m'ont dit, il faut que tu changes. Parce que. Pour eux, c'est peut-être un manque de respect.
Exactement.
Tu penses que elle ne mérite pas que tu t'habilles. Alors j'étais obligée parfois, Mosoloki, bon, en plus de
après
pas
se changer, après
de mettre des trucs comme ça, j'avais pas nécessairement, mais je faisais l'effort. J'ai acheté des trucs là quand je m'arrêtais à Dubaï entre deux
missions, deux avions.
Oui, les connexions.
Oui.
J'allais, je courais, j'achetais des trucs que je portais jamais et je les ai jusqu'à présent. Quand tu vas, tu mets un peu ta caille.
Oui, exactement.
Ça t'accueille pendant les trucs, j'essayais de trouver des choses, mais jamais trop.
Oui.
Parce qu'il fallait garder quand même que la société qu'on préconise, c'est une société d'équilibre.
Oui.
Donc, il n'y aura pas des gens qui ont même des masques en or, que tu vas mettre de l'or jusqu'à ne plus savoir
au coude,
ou mettre un bracelet. Non, et c'est ça la société sénégalaise.
Oui.
On vit au-dessus de nos moyens.
C'est vrai.
Et quand je faisais mes conférences, je disais toujours... ces gouvernements qu'on a sont en train de nous mentir, de nous faire croire que c'est possible. Ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas avoir ces moyens-là. Donc, on peut vivre sobrement, mais bien.
Oui.
C'est une société de sobriété heureuse, comme disait Pierre. C'est important parce que le Sénégalais est toujours à chercher ce qu'il ne peut pas avoir. Et ce qui fait que politiquement, on n'arrivera jamais à régler les problèmes parce que, regardez aujourd'hui, il y a une inflation. Mais ça touche qui? Les 30% d'urbains?
Oui.
Ça touche la classe moyenne? Toutes les infrastructures. Pourquoi Macky, les gens lui en veulent? Parce qu'il a mis l'accent sur les infrastructures qui règlent Dakar. Dakar, ce n'est pas le Sénégal. Et c'est sur le social qu'il fallait aller. Il y a des pays qu'on a dit comme émergents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par régler le problème du monde rural. Mmh. Parce que quand tu vas faire en sorte qu'il y a du travail, il y a une raison de vivre là-bas, il y a des divertissements, il y a tout dans le village, mmh. les gens ne vont pas venir à Dakar. Mmh. Dakar, c'est tout sauf une ville.
Exact.
C'est tout sauf une ville. On c'est une série de bidonvilles qu'on a mis comme ça. Alors, tu as un TER, dernier cri qui passe. C'est vrai, il y a ouais. 10 millions de clients. C'est tant mieux. Mm-hmm. Mais qui prend le TER mm-hmm. Est-ce que ça règle les problèmes
réellement
du Sinsalou
banlieue, oui.
Est-ce que ça règle les problèmes de la Casamance
non.
Est-ce que ça règle les problèmes de l'agriculture
non.
Donc, il y a dans le choix qu'on fait. Or, je vois tous ceux qui se présentent comme contre Macky disent exactement la même chose.
Exactement.
Mais c'est lui qui le fait, alors on lui en veut. Mais c'est tous qui ne correspondent pas.
Oui.
Et c'est pour ça que la gauche doit renaître.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je veux. Mmh. Je veux une gauche sénégalaise, mmh. vraiment. Que ça, qu'elle renaisse de ses cendres.
Il y a des gens qui sont convaincus maintenant qu'on a accepté de faire des compromis historiques. Parce qu'en 2000, il fallait mettre fin au régime du PS. Ça faisait 40 ans, c'était mmh. trop. Et la population n'était pas arrivée à un niveau où les gens pouvaient mmh. comprendre et s'engager. Mmh. On s'est allié à Watt, qui était un libéral. On savait depuis le départ.
Ouais.
On le savait qu'il allait faire des choses.
Moi, j'étais plus jeune, mais jusqu'à présent, oui, c'est...
Quelqu'un m'a dit le jour des élections, Sarniodé, vote. Parce que yo, tu es capable de dire je ne peux pas, c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Mais on savait, mais on s'est fait piéger. Parce que les hommes, c'est toujours ça. Moi, je disais dès le départ, eux tous, quand ils sont venus se réunir, je leur ai dit, il faut des papiers écrits. Mm-hmm. Watt Souaré dit, il va faire ce qu'il veut. Mm-hmm. Et c'est ce qui s'est passé.
Exact.
Et une fois qu'un président est élu, le régime présidentialiste qu'on condamnait, mm-hmm. il s'est assis. Mm-hmm. C'est comme maintenant.
Ah,
on disait la patrie avant le parti. Après, on s'installe, Mouno Ibédé. Et voilà les confusions mm-hmm. idéologiques, politiques qui existent au Sénégal. Mm-hmm. Or, maintenant, le danger est réel. Parce que jusqu'à présent, on faisait de la politique en gentleman, mm-hmm. or gentlewoman, mm-hmm. comme on disait. Il y avait un respect. Mm-hmm. On acceptait les différences idéologiques. Mm-hmm. Maintenant, on a des gens,
on
c'est des sauvageons, comme
taire.
Disait un truc. C'est des gens, c'est des terroristes politiques. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est des gens qui veulent imposer leur vision du mm-hmm. monde mm-hmm. et leur vision dépasse mm-hmm. le contexte économique.
Exact.
Il va dans la morale, il va dans la religion. Mm-hmm. Ils veulent faire de nous des États mm-hmm. qui vont être dictatoriaux.
Oui.
Et ça, on ne peut pas l'accepter.
Je comprends parfaitement.
On ne peut pas l'accepter.
Et pendant qu'on y est, pour parler de votre militantisme et de votre engagement politique, mmh. je vais vous poser la question qu'on pose qu'aux femmes, qu'on ne la pose jamais aux hommes. Mmh. Comment vous réussissiez à allier professionnalisme, militantisme
mmh. famille.
Et famille? On
Parce
fait ça comment
c'est, bon,
ça, c'est la question qu'on a pour
Exactement.
Les femmes tout le temps.
Ouais, ouais. Non, non. En fait, ce matin, je me disais, il faut que je parle plus de ça.
Oui.
Mais je ne voyais pas, bon, on est
parti. Maintenant, ça vient.
Mais ça vient. C'est-à-dire qu'il fallait être super dans tout. Parce qu'il y avait aussi des choix à faire. Mm-hmm. J'avais décidé que je ne voulais pas beaucoup d'enfants. Mm-hmm. Autre conflit encore.
Il faut oser le dire, hein, parce
oui,
que jusqu'à
oui.
présent, beaucoup
avec
de gens n'osent pas dire ça.
Moi, j'avais dit, je veux deux enfants. Mm-hmm. Et mon mari, lui, il voulait une grande famille. J'ai dit, non, c'est comme c'est moi qui porte. C'est mon point de vue qui va déterminer. C'est tout. Je voulais un garçon, une fille.
Pas d'utérus, pas d'opinion.
Ouais, ouais, parce que c'est ça. Ma belle-mère, elle devenait folle. Elle me dit, dis-moi, Hélène, non, c'est pas possible. Je lui dis, c'est ça que je peux. J'ai, par ailleurs, eu 7 autres enfants que j'ai élevés. Mm-hmm. Cousins, neveux, nièces et tout ça. Donnez-les-moi, je peux le gérer. Mm-hmm. Et franchement, il fallait une organisation à toute épreuve. M'occuper des enfants. J'avais mm-hmm. un travail prenant parce mm-hmm. que c'était à l'international. Donc, j'étais là. Mm-hmm. Je devais prendre l'avion. Il fallait mmh. voir chez nous, là où on habitait les endroits, il y avait des feuilles partout. Mmh. Tu dois emmener le docteur, on doit emmener chez le pédiatre les enfants, tel jour, à telle heure. Il y a ça. Et il n'y avait pas de téléphone facile mmh. comme ça. Mmh. Il fallait que de là-bas, j'envoie des télégrammes, des téléx, des trucs comme ça, chose mmh. incroyable. Organiser. Et je voulais aussi que mes enfants aient une éducation particulière. Mmh. Là, j'ai eu des difficultés parce que comme j'ai pris des enfants d'autres, mmh. c'était pas toujours évident. Comment mm-hmm. faire en sorte que je n'ai pas l'affection avec mes enfants? Des fois, ils me le reprochent. Il fallait toujours qu'ils partagent. Il fallait toujours qu'ils
oui.
partagent
oui.
avec d'autres. Bon, ça n'a pas toujours été facile. Donc, mm-hmm. ça m'a demandé énormément d'énergie mm-hmm. pour faire attention. J'achète ça, il faut qu'ils ressemblent, etc. Les filles, mm-hmm. les garçons et tout ça. Mais surtout, leur donner le sens de la vie à laquelle je croyais. Mm-hmm. Hein, les valeurs et des choses comme ça. Donc, moi, j'avais un principe. Dans la journée, tout le monde partait, mais le soir, on était tous autour de la table. Mm-hmm. Il n'y a pas eu une soirée où j'étais à Dakar, où je n'ai pas mangé, mon mari et moi, avec les enfants, même des fois tard, parce qu'on revenait des réunions politiques et tout ça. Et je vois le fruit aujourd'hui. Parce oui. que quand mes fils me rappellent des débats qu'on a eus, des discussions à la fin chez moi, c'était la catastrophe parce que leurs copains, mm-hmm. tout le monde voulait venir manger parce qu'on parlait, mm-hmm. ils étaient libres, et leurs parents leur disaient, mais vous les fatiguez, des mm-hmm. trucs comme ça, etc. Ça, quand même, ça a été laborieux, oui. mais on a réussi en partie. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est terrible. Sur le plan professionnel, avec la grande gueule que j'avais, mm-hmm. je ne pouvais pas rater mes coups. Mm-hmm. Et là, j'ai eu énormément de problèmes. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que j'étais tellement militante, mm-hmm. tellement sûre de ce que je défendais, mm-hmm. que je ne pensais pas carrière. Mm-hmm. Moi, j'aurais pu être aujourd'hui, je le dis sans complexe, hein, j'aurais pu être secrétaire générale des Nations Unies. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, c'était le temps de l'Afrique, j'étais la seule femme mm-hmm. à avoir un poste où j'étais directrice régionale.
Oui.
Hein, mais ma grande gueule, je me suis disputée avec ma patronne parce qu'on n'était pas d'accord. Elle pensait que j'étais venue pour prendre sa place. Bref, souvent, il y a des choses qu'on mm-hmm. n'ose pas dire parce que c'est bon, c'est mon éducation catholique oui. qui me oui. pousse et tout ça. Mais franchement, je lisais, il y a un livre de Pablo Neruda que je répète toujours, j'avoue que j'ai vécu
oui.
parce que j'ai été placée avec des chefs d'État, avec des grands de ce monde, Mandela, avec Fidel Castro, j'ai eu des échanges avec eux mm-hmm. dans des situations, j'avais pas peur mm-hmm. idéologiquement j'étais forte mm-hmm. et eux tous, président Nyerere mm-hmm. est venu jusqu'au Sénégal
oui.
parce qu'il disait Julius Nyerere de Tanzanie,
oui.
je veux voir cet homme qui arrive à te contrôler. Parce que ce n'est pas possible que nous, chefs d'État, on est assis, on était allés, j'étais membre de la commission Sud.
Mm-hmm.
C'était la commission Sud-Sud. Il n'y avait que des chefs d'État,
oui.
ou d'anciens chefs d'État, premiers ministres et tout ça. J'étais la seule qui était la petite fille, quoi,
mm-hmm.
la plus jeune, qui n'avait pas de titre de ce niveau-là.
Mm-hmm.
Et on a eu des débats chauds. Je mm-hmm. l'ai fatiguée mm-hmm. parce que je n'étais pas d'accord. Et on avait le même titre que tu sois présidente de Tanzanie ou secrétaire général du Commonwealth ou je ne sais pas quoi.
Mm-hmm.
Ou, comment dire, un prêtre d'homme Elder Camara de Brésil ou des choses comme ça.
Mm-hmm.
La petite Marie-Angélique, là, pouvait parler. Et franchement, ils m'ont dit, il faut que je vienne. Il mm-hmm. est venu au Sénégal.
Mm-hmm.
Il a dit, Abdou Diouf, je ne suis pas venu en visite d'État. Je veux voir cet homme-là, parce que cette femme-là nous a fatigués, des trucs comme ça. Mais j'ai beaucoup appris.
Oui.
Et eux aussi, Nyerere, son dernier discours, il a pleuré, il a dit « j'ai beaucoup appris
mm-hmm. ».
Parce que quand celle-là là,
mm-hmm.
me dit que tout mon programme Ujamaa, là, c'est du pipeau, je me dis « mais d'où est-ce qu'elle sort ?» On peut oser me dire ça, alors que le monde entier a parlé des Ujamaa comme si c'était la réponse oui. africaine au socialisme, etc., etc.
Voilà.
Donc, il y avait cette vie qu'il fallait gérer. Il y avait mon mari, il est musulman, donc mm-hmm. il aurait pu prendre une deuxième femme. Coucou
mm-hmm. oui.
Beaucoup de gens. Ma mère me disait, Bilal, un jour, tu vas venir, tu vas trouver une femme dans ton lit, tu vas rien comprendre. Togel,
mm-hmm.
tu peux pas, qui
mm-hmm.
Maneko, qui on a signé tacitement et ouvertement mm-hmm. un code.
Mm-hmm.
On est ensemble parce qu'on veut être ensemble.
Mm-hmm.
Le jour où tu ne peux pas être ensemble, chacun part.
Mm-hmm.
Mais si tu veux prendre une autre femme, ça veut dire que moi, mm-hmm. je ne réponds plus à tes demandes. On part. Je mm-hmm. n'accepterai jamais. Mm-hmm. Je ne serai jamais une première.
Mm-hmm.
Wow. Ça, c'était clair dès le début. De telle sorte que, comme on en parlait ouvertement, j'ai mon fils, le dernier, qui disait toujours, si jamais tu as une autre maison, moi, je vais tuer tout le monde. Parce qu'il avait son copain,
oui.
le père avait 4 femmes.
Oui.
Et il était traumatisé, il disait, Moudou dit toujours, mon père, il n'est pas là aujourd'hui.
Mm-hmm.
Hein? Moi, en tout cas, si jamais mon père,
mm-hmm.
il a une autre, pour lui, c'était une autre maison, il avait 6 ans, mm-hmm. hein? Il disait, moi, quand je l'ai vu draguer, je lui ai dit, mais yo, n'y a te gelga, alors que tu toi.
Voilà. Nous arrivons bientôt à la fin. J'ai passé un super moment. Il me reste 20 000 questions à vous poser, mais je vais en poser deux dernières.
Fois.
Mais avant ça, je vous ai ramené quelque chose que je veux vous offrir. C'est Alors, ce que peut-être que les gens ils ne savent pas, c'est que Marie-Angélique Savanet adore tous les produits, tout ce qui est produit de beauté, tout ce qui est skincare, routine, etc. Et donc, je lui ai ramené un cadeau offert par Inoya. Et Inoya, en fait, c'est une marque française, certes, mais créée par un Sénégalais et sa femme. Il s'appelle Abdou Benjeloun et ils font cette marque qui s'appelle Inoya. Et là, j'ai avec moi le gel nettoyant, j'ai le sérum anti-tache et j'ai le fluide solaire pour vos protections, indice 50.
Indice, bah oui.
Voilà.
En tout cas, merci, parce que ça, c'était une des luttes que j'ai menées pendant longtemps. Vous savez, les premiers articles qu'on a écrits sur le RESEL, à l'époque, c'était dans Famille et Développement.
Oui.
Et on avait fait parler un instituteur burkinabé. On avait fait parler plusieurs gens. Et à l'époque, parler de ça, c'était la catastrophe. On avait réussi à voir le ministre de l'Éducation nationale. J'ai oublié, c'était un syndicaliste, il est mort. Et on lui avait dit qu'il fallait interdire dans les écoles. Et vraiment pour trouver ça,
et lui, sa femme, et lui, justement, milite pour contre la dépigmentation.
Exactement. Et on avait, à l'époque, fait tout un travail. Et c'est comme ça que j'ai connu, bon, qu'elle m'a connue après, Madame Lee, docteur Lee.
Oui, 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 la dermatologue. La dermatologue
et tout ça. Parce qu'on avait dit, peau noire, masque blanc.
Oui.
Tu vois. Et on avait fait un article, ça avait eu un retentissement partout.
Oui.
Et on en a parlé un peu beaucoup et tout ça. J'ai fait beaucoup de conférences sur la question, surtout dans les pays en Afrique centrale. À l'époque, entre le Cameroun, surtout le Congo, Congo de RDC, c'était vraiment la catastrophe.
Exactement.
Parce que c'était hommes et femmes, Brazzaville et Kinshasa. Oui. Quand j'allais là-bas, je me disais, c'est pas possible. Et puis ils disaient, mais madame, pourquoi vous êtes contre même Mais ça, c'est pour la beauté, c'est parce que ça donne le teint, c'est joli, c'est le teint. Ils disaient, c'est le teint. Je leur dis, mais vous, vous êtes en train non seulement de vous abîmer, vous pouvez avoir des cancers, mais je dis, qu'est-ce que ça signifie pour nous de dire, on veut être blanc. Pourquoi on veut être blanc? Dieu nous a créé noir. Et puis, toute notre qui, la mélanine, enfin bref, on a eu des débats. Et à l'époque, on avait réussi à faire supprimer les premières publicités pour ça. Puis après, c'est revenu. Mais quand je regarde maintenant, je regarde toutes ces images du Magal, des gamins, des fêtes religieuses. Mais ce n'est pas possible. Où sont les femmes sénégalaises? Les sénégalaises dans le monde, partout où vous allez. Moi, des fois, on me disait, vous n'êtes pas sénégalaise. Je dis, pourquoi? Ils me disent, vous n'êtes pas assez noire. C'est ça, notre marque de fabrique. Mais voilà que maintenant, on est devenu jaune.
Exactement. Et d'ailleurs, et donc Laila et Abdou seraient super contents de vous rencontrer.
Parce qu'ils militent pour ça. Surtout que ce soit un Sénégalais,
Ils militent vraiment pour ça, de pouvoir proposer des produits pour les peaux noires et les peaux métissées. C'est ce que j'utilise, parce que Inoya fête 11 ans, c'est 11 ans samedi. Oui, ils existent en France, ils ont remporté, ils ont des découvertes qui ont été brevetées, ils ont des principes brevetés, etc.
Ils ont ouvert
récemment, vous les trouvez maintenant en pharmacie. Ils sont sur 33 pharmacies à Dakar, si mes souvenirs, 33 ou 35, si mes souvenirs sont bons. Et ils ont ouvert un Oya Time Center entre l'aéroport de Yoff et le virage. Donc, il y a le Oya Time Center qui se trouve là-bas.
Et ils ont
tout ce qu'il faut. Ils ont mis tout ça en place. Et
ils font du make-up.
Oui, exactement. Ils font plein de choses en même temps.
Je vais aller là-bas.
Voilà.
Ça va me donner envie
Exactement. Et ils seront contents.
C'est important parce qu'il faut que les jeunes, on arrive à leur faire comprendre le poème de Senghor. C'est dommage, Senghor, il a écrit ça, il a été épousé une blanche. Bon, il y a un problème là. Et tous nos présidents là qui avaient des femmes, c'est pour ça que Marem
Faye. Oui, moi je suis femme.
De trucs,
j'avoue,
parce qu'au moins elle est naturelle.
Exact.
Non, il faut qu'on revienne à ça. Tout le changement culturel dont j'ai parlé tout à l'heure, donc sur lequel il faudra revenir, de ce Sénégal-là, si on veut changer nos mentalités, il faut qu'on assume avec dignité ce qu'on est. Pour commencer, on n'a pas de moyens. Maintenant, on a des ressources pétrolières, mais on va voir, mais qu'on vive avec ce qu'on a. Et à ce moment-là, toute notre vision, notre créativité va aller dans ce sens.
Exact.
Parce qu'on a parmi les gens, les personnages les plus beaux d'Afrique. C'est que les gens n'ont pas voyagé, ne réalisent pas. Mais si on perd ça pour aller mettre des trucs qui sont jaunasses, on ne sait pas à quoi ça ressemble, ça n'a pas de sens. Allez. La beauté sénégalaise est une beauté d'une femme élégante. Moi, je vois mes collègues à l'international me disaient toujours, mais quel plaisir de circuler dans les rues de Dakar. toutes les femmes sont belles, que ce soit celle qui est assise. Une fois, un gars m'a dit, mais même j'ai vu une mendiante qui reflétait une espèce de beauté que j'ai rarement vue. Il faut qu'on le sache et qu'on soit fier de ça.
Effectivement, je suis d'accord.
Mais ça, c'est un travail de l'État. Il faut un État culturellement orienté, culturellement digne, qui ne soit pas un État qui va quémander de l'argent aux Blancs parce qu'on veut construire des choses dont on n'a pas les moyens. Mais le jour où on aura la dignité de bâtir à partir de ce qu'on a. Je reprends, je suis maoïste, j'assume. La Chine, j'ai visité la Chine dès les années 80 et j'ai vu l'évolution. Ce pays en 70 ans, c'est-à-dire 10 ans de plus que nous, ont réussi à passer de l'extrême pauvreté que j'avais vue dans les années 80 à aujourd'hui être pratiquement la première puissance économique mondiale. À des villes, j'ai vu que chaque fois que je vais à Shanghai, j'ai dit mais ils avaient décidé, planifié qu'ils arriveraient à tel, vous arrivez, ils l'ont fait. Parce qu'ils ont cette dignité, cette fierté d'être chinois et de dire on n'accepte pas que l'Occident nous domine. On a des civilisations millénaires.
Je comprends pas.
Et nous, on vient de l'Égypte.
Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo.
Exactement. Alors, et ce que je veux vous poser comme question pour finir, c'est les deux dernières questions. Aujourd'hui, après tout ce que vous avez vécu, ce que nous avons échangé, ce dont nous avons discuté, êtes-vous à votre place?
Non, je ne suis pas à ma place.
Oui.
Non, je ne suis pas à ma place. Parce que je crois que quelque part, j'ai démissionné à un moment. J'ai démissionné parce que j'ai eu peur. Honnêtement, il faut le dire, je n'ai pas compris cette espèce d'animosité que j'ai rencontrée avec certaines personnes. Et franchement, ça m'a remise en question. J'ai dit, bon, si je suis trop devant, j'ai perdu ma voix. J'ai perdu mes genoux. Je ne voulais plus sortir. Parce que j'ai cru que peut-être... Et j'ai vu que, bon, au fond, toutes ces personnes-là qui disaient ça, c'était pour y être. Mais il y a le charisme qu'il m'a donné. Et j'ai compris ça parce que j'ai pu avoir l'aide de quand même d'amis vraiment qui m'ont dit mais tu vas changer pourquoi? Parce que d'autres sont complexés. Si c'était pour les faire avancer, mais elles sont complexées, elles ont leurs problèmes, laissez avec leurs problèmes et reviens. Et j'ai perdu 10 ans, 10 ans au cours desquels je pense que j'aurais pu continuer parce que j'avais l'énergie que j'ai moins maintenant à faire ce travail, mais je le reprends avec l'énergie du moment parce que j'y crois. Je crois que ce pays doit changer. Et ceux à qui Dieu a donné la capacité d'avoir la connaissance, d'avoir l'expérience, parce que moi, je suis mue par les questions de développement. Partout où j'ai été dans le monde, quelle que soit la mission, je me débrouille toujours pour aller visiter un programme, un projet, en me disant, au Sénégal, on peut le faire. Donc, ma tête bruit de projets, de choses, et je me dis, je ne vais pas garder ça pour moi.
C'est clair.
Il faut que je transmette.
Je suis d'accord avec vous. Et si vous aviez 20 ans en 2022, qu'auriez-vous aimé savoir?
Ce que les jeunes là savent, c'est-à-dire j'aurais aimé maîtriser l'outil technologique, maîtriser vraiment les sciences, parce que c'est à partir de là qu'on peut changer. Et moi, mon travail aujourd'hui, je rencontre beaucoup de jeunes, j'essaie de faire ce travail-là, qui sont en première terminale. Je fais du bénévolat dans certains lycées, ils me demandent, je vais parler à ces jeunes-là pour leur dire, il faut qu'on maîtrise la connaissance. Tous ces trucs-là, où tu as 80% des bacheliers qui sont dans les séries littéraires, c'est bidon. Parce que c'est de la perte, ils ne font rien, la preuve, on ne sait même pas où les caser. Il faut qu'on développe les vertus scientifiques, parce que ça donne la connaissance de ne pas avoir peur que c'est possible qu'on transforme le Sénégal. Le jour où je verrai dans les télés, au lieu de ces trucs bidons qu'on nous montre, des concours pour les gosses qui vont faire des découvertes scientifiques. J'ai vu une fois, j'étais en mission au Cap-Vert, le petit Cap-Vert. Ils ont une émission qu'ils font, des concours de tous les lycées. Et les gosses sont la seconde, première, terminale, à créer dans les laboratoires de chimie. Ils ont réussi à acheter eux-mêmes avec leurs parents, avec des petits projets, mm-hmm. parce que c'est ça l'avenir. Mm-hmm. Et nous, qu'est-ce qu'on fait c'est, on danse, on chante, on fait des trucs comme ça. Aujourd'hui, avoir 20 ans, c'est le monde qui s'ouvre à nous. Mm-hmm. Le Sénégal est petit pour nous maintenant. Mm-hmm. C'est la mondialisation. Donc, il faut que nos jeunes soient capables de dire quelle est ma place, quel est mon rôle dans ce concert mondial.
Merci
et
beaucoup.
On y a une place.
Merci beaucoup, Marie-Angélique Savané. Mm. Merci de nous avoir accueillis pour cet épisode de Conversation féminine. Merci beaucoup.
Plaisir. J'avoue que je suis très contente.
Vous écoutiez le podcast Conversation féminine. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Si ce n'est pas encore fait, allez sur Apple Podcasts, abonnez-vous et laissez-nous un avis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle conversation.